Vous écoutez
RMC.
L'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
À la une, le sacre de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde.
L'Espagne, vainqueur 1-0 en prolongation contre l'Argentine. Scène de joie toute la nuit chez les Espagnols. L'âme de Lionel Messi côté argentin. Des sifflets aussi pour Donald Trump. On va revivre tout ça dès le début du journal. Un gros incendie depuis hier dans le Var. 10 maisons brûlées au sud de Draguignan. On est sur place. Et la confirmation aussi dans le Tarn. Les ossements retrouvés la semaine dernière sont bien ceux de Delphine Jubillard.
Et à la fin de cette Coupe du Monde, c'est le plus fort qui a gagné.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et alors, c'est en prolongation à la 106e minute de cette finale que vous avez vécue sur RMC que l'attaquant Ferran Torres a marqué le but du deuxième titre mondial pour l'Espagne, provoquant des scènes de joie toute la nuit en Espagne, bien sûr, mais aussi chez nous en France, ici près de Paris, où les Espagnols suivaient le match en compagnie de notre journaliste Corentin Roland.
Un but de la libération de l'attaquant Ferran Torres au bout de la nuit. Et la centaine de supporters espagnols rassemblés à Saint-Denis peut chanter sa fierté. L'Espagne est championne du monde face à l'Argentine. L'issue a eu raison de la voix de Didier, franco-espagnol, maillot de la Roja sur le dos.
Indescriptible parce que ça a été un match tendu, on a été aux prolongations. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable.
La victoire 1-0 face à l'Albicéleste s'est dessinée tardivement, mais l'Espagne a aussi battu le Portugal, la Belgique ou la France avec un seul but encaissé dans le tournoi. Elle est aujourd'hui récompensée pour Julien et Laura.
On a produit du beau jeu, je trouve. Les Argentins n'ont pas existé.
On l'a mérité amplement. Franchement, on a dominé tout le match. T'étais obligé que la deuxième étoile elle vienne chez nous. Il n'y avait pas le choix.
Le nouveau symbole, justement, sur toutes les lèvres.
Deux étoiles ! Deux étoiles, monsieur ! Viva España !
Car l'Espagne rejoint la France avec deux Coupes du Monde à son palmarès, mais les supporters ne sont pas rassasiés et rêvent déjà d'une troisième étoile à domicile en 2030.
L'Espagne qui rejoint donc la France et l'Uruguay au palmarès des doubles vainqueurs de la Coupe du Monde. Et l'Argentine, elle, ne réalise pas le doublé dont elle rêvait tant. Elle qui a été complètement dominée hier soir lors de la finale. Nicolas Pelletier, vous êtes en direct de New York pour RMC où se jouait cette finale. Une des images marquantes de la soirée, ce sont d'ailleurs les larmes de Lionel Messi.
Oui, pendant de longues minutes et alors que l'Espagne était en train de soulever la Coupe du Monde juste derrière lui, Lionel Messi est resté figé, larmes aux yeux et visage rougi, debout devant 50 000 Argentins qui avaient pris place dans le virage du stade de New York, des chants à la gloire de l'idole argentine et des applaudissements nourris pour dire merci à l'ensemble de sa carrière. Malgré la défaite, cette image marque l'histoire du football et en quelques minutes, elle fait le tour des médias du monde entier. Inexistant lors de cette finale, l'attaque L'attaquant de 39 ans pourra quand même se satisfaire de son mondial avec 8 buts inscrits. Lionel Messi n'a pas évoqué publiquement la suite de sa carrière internationale à l'issue du match. L'Argentin qui a offert le mondial 2022 à son pays pourrait avoir un dernier hommage à la maison lors d'une prochaine trêve internationale. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme aux 8 ballons d'or a joué ce dimanche 19 juillet 2026 son dernier match de Coupe du Monde.
Nicolas Pelletier en direct des États-Unis ce matin pour RMC. C'est le milieu de terrain de l'Espagne, Rodri, qui a été désigné meilleur joueur du tournoi. Et comme Lionel Messi n'a pas marqué hier soir, eh bien c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition, meilleur buteur même de l'histoire des Coupes du Monde. Cette finale, tiens, qui était coupée par un concert de 27 minutes à la mi-temps, en présence notamment de Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber, et en présence aussi de Donald Trump, qui a été sifflé par le public pour son unique match du mondial.
Tiens, ce matin, on va faire le bilan de cette Coupe du Monde. Ça y est, elle a touché à sa fin. Alors déjà, de cette finale, c'était un petit peu choisir son poison en tant que Français. Choisir entre une victoire de l'Espagne, ceux qui nous ont éliminés en demi-finale, ou choisir entre une victoire de l'Argentine, qui sont nos grands rivaux. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat d'hier? Et puis qu'avez-vous pensé au global de cette Coupe du Monde qu'on a annoncée grandiloquente? Vous nous le dites au 32-16 et sur le WhatsApp au 06-12-424-424. Il est 6h04 sur RMC et 600 pompiers sont mobilisés dans le Var pour tenter d'éteindre un violent incendie.
Un feu qui a pris dans la région de Draguignan, à Tarado précisément. Il s'est propagé aux Arcs. Il a franchi l'autoroute, 200 hectares parcourus, 10 maisons brûlées, 150 personnes évacuées avec ce feu qui n'était toujours pas fixé dans la soirée, comme nous le raconte Alexandre Thibault pour RMC.
Depuis sa maison, Julie a vu les flammes et le panache de fumée très proche.
En 10 minutes, il fallait évacuer.
Sa priorité, son cheval dans son jardin.
On a par chance un club de l'autre côté de la nationale qui accueille tous les chevaux qui ont besoin d'évacuer. Donc j'ai marché une heure pour aller mettre le cheval en sécurité.
Elle et son compagnon ont trouvé refuge chez chez des amis. Son compagnon qui redoute que sa maison soit détruite.
Moi, je suis architecte. Ma société est à domicile. Potentiellement, je perds le bien familial et toute la structure entrepreneuriale. Surtout, c'est que c'est une de mes plus belles réalisations en tant qu'architecte.
Alerté par un ami, Pierre-Marie tente de se rendre dans la commune, mais sur le chemin, il se retrouve pris dans les flammes.
Et pour moi, ils ont pris un coup. Mon bras, il a brûlé. C'est moi qui ai failli prendre de feu.
Légèrement blessé, il arrive sur place et découvre des maisons ravagées.
Oh, il n'y a plus rien ici.
Les toits sont calcinés, les jardins brûlés, les vitres explosées.
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre qu'il n'y a plus rien. C'est un tas de cendres. Il y a des animaux qu'on n'a pas pu sauver. C'est les maisons de vos amis, c'est tout ce que vous construisez qui se met à brûler. Ça fait très mal au cœur.
Il a hébergé cette nuit plusieurs sinistrés qui ont dû évacuer.
Et ce feu qui a provoqué des perturbations sur la ligne de train entre Marseille et Nice toute la journée d'hier. Deux ont été annulés, d'autres ont dû rebrousser chemin. Avec parmi tous les voyageurs touchés, le journaliste bien connu de la chaîne Bein Sport, Thomas Ferraud-Vilchez, qui était évacué en pleine voie près de Toulon.
Au début, on n'a eu aucune information. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, surtout qu'il y avait des chaleurs suffocantes, donc il y a commencé à avoir des malaises. Pour certains, il y avait plus de chance qu'il y avait la clim dans certaines voitures et tout le monde se réunissait. On commençait à parler et puis on était tous assez solidaires. On nous a invités à débarquer du train après 4 heures d'attente dans la chaleur étouffante. On a marché 2 kilomètres sur les ballasts avec des valises à se piétiner, à se marcher dessus, à trébucher entre les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, enfin... Les gens sont un peu paniqués, ils essayent de s'organiser. Moi, je vous avoue que je sais même pas comment je vais rentrer. J'habite à Saint-Raphaël. Je sais même pas comment je vais rentrer chez moi, quoi.
Et les pompiers luttent aussi contre le feu en Haute-Corse et en Loire-Atlantique où un incendie a touché hier une zone résidentielle et détruit 3 maisons à Trignac, près de Saint-Nazaire.
Et vous le savez, RMC est une grande famille. On prend de vos nouvelles ce matin si vous avez été impacté par ces feux et par ces incendies. Comment vous vous êtes réveillé? Quel décor autour de vous ce matin? Vous nous le dites au 3216 et sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Il est 6h07 sur RMC et une confirmation ce matin. Les ossements retrouvés la semaine dernière dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubilard.
Retrouvés dans un champ où Cédric Jubilard disait avoir enterré le corps il y a presque 6 ans. Alors Constance Bostoen, les ossements ont été analysés durant le week-end et le parquet général de Toulouse a confirmé dans la journée qu'il s'agissait bien donc des ossements de Delphine Jubilard.
Cette confirmation était attendue par les proches de Delphine Jubilard, comme Manon qui espère désormais rendre hommage à sa cousine éloignée.
Un peu plus de soulagement, parce que ben là on est sûr à 100%, où il y aura sûrement une sépulture qui pourrait être enfin faite.
Si Cédric Jubilard a reconnu sa responsabilité dans la mort de sa femme, l'endroit où les ossements ont été retrouvés rajoute encore de l'atrocité dans cette affaire, selon maître Pauline Rongier, qui défend la meilleure amie de la victime.
Il est décidé comme ça de s'en débarrasser dans du fumier, et aussi là une nouvelle douleur avec laquelle ils doivent composer.
Les causes de la mort de Delphine Jubilard restent pour l'heure inconnues, mais maître Batic, qui défend l'oncle et la tante de l'infirmière, espère que la famille obtiendra ses explications en septembre, lors du procès en appel, et que l'audience ne sera pas repoussée, comme l'espère la défense.
Ça voudrait dire que ce serait encore Cédric Jubilard qui dicterait l'agenda. Nous souhaitons que le procès se tienne au mois de septembre.
En première instance, Cédric Jubilard avait nié toute responsabilité dans la mort de sa compagne. Il avait été condamné à 30 ans de prison avant de faire appel.
C'est la polémique depuis ce week-end à Grenoble. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, réagit et condamne, je le cite, avec la plus grande fermeté, l'interruption d'un concert par des militants pro-palestiniens et de la France insoumise pour dénoncer la présence, la position de la DJ Barbara Butch, de confession juive, qui avait signé il y a quelques mois une tribune soutenant la très contestée proposition de loi Yadan visant à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Concert donc perturbé, c'était samedi, condamnation de la ville de Grenoble et du président de la LICRA, Mario Stasi.
Je trouve ça scandaleux et je trouve ça gravissime que des artistes juifs ou supposés comme tels se voient l'objet d'un blocus militant ou de censure sous prétexte d'une religion supposée et donc d'un soutien supposé à une politique dont on dit qu'elle est génocidaire. C'est une atteinte terrible à la liberté d'expression. Cette censure qu'on veut imposer aux artistes, je trouve ça inadmissible, mais indéfendable, indéfendable.
Et vous restez bien sûr RMC dans Apolline Matin à 8h10. Nous recevrons Alain Buron. Il est élu municipal à la France Insoumise de Grenoble et c'est lui l'organisateur de cette manifestation contre cette DJ Barbara Butch. Il est 6h09 sur RMC. C'était une journée pleine de rebondissements sur le Tour de France.
Oui, qui arrivait dans les Alpes au plateau de Solaison. C'est le Belge Remco Evenepoel qui a gagné quasiment une minute devant le Français Paul Sexas, qui n'a pas pu suivre le trio de tête dans la dernière montée. Mais Romain Asselin, l'étape a surtout été marquée par l'abandon du Danois Jonas Vingegaard, qui a fait énormément réagir depuis hier après-midi.
Oui, le Tour du Danois a brutalement basculé à la sortie d'un rond-point piégeux, environ 20 km de l'arrivée. Marc Riff, directeur sportif de l'équipe Visma Lease Bike.
Il y avait une moto devant le peloton et le pilote a un peu paniqué au moment de freiner. Il y a donc eu ce freinage brusque devant le groupe. C'est alors que Jonas a chuté, entraînant d'autres coureurs avec lui.
Depuis cet abandon, chacun se renvoie la balle. Le peloton arrivait trop vite dans la courbe, selon les organisateurs du Tour. Tadej Pogacar, lui, s'interroge sur le contrôle antidopage subi en pleine nuit par les deux premiers du général.
Lui, il a eu à 2h du matin. Je me suis demandé si ça avait pu jouer un rôle. Quand une nuit de sommeil est complètement perturbée, on est peut-être un peu moins lucide dans une descente. Et en un instant, tout votre tour peut basculer. Je ne dis pas que c'est la cause de sa chute, mais c'est peut-être un élément qui a aussi pu entrer en ligne de compte.
Remco Evenepoel, vainqueur hier au plateau de Solaison, nouveau dauphin de Pogacar, est d'accord avec le maillot jaune.
C'est un peu inhumain d'aller réveiller les coureurs à 2h du matin, 5h du matin. Je l'ai dit à Tadej, son équipe devait faire la même chose avec les contrôleurs, d'aller les réveiller à 2-3 heures la nuit. J'espère que c'est pas moi le malchanceux pour la nuit qui arrive maintenant.
Évacué dans une ambulance, Jonas Vingegaard sera opéré dans les prochains jours.
Bon, et aujourd'hui, c'est repos sur le Tour de France avant de repartir demain, déviant les bains aussi.
Bah, c'était le journal de Quentin Vinet.